8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, Lucie Bouteloup.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui est souvent vécu de manière douloureuse quand on y est confronté, c'est le divorce. Alors évidemment, les chiffres diffèrent d'un pays à l'autre, mais globalement, de plus en plus de gens demandent le divorce, y compris dans les pays où le poids de la tradition reste fort. En Égypte, par exemple, le taux de divorce a doublé en 20 ans. En Chine, avec la crise du Covid et les confinements à répétition, les demandes de divorce ont littéralement explosé. Alors, quand la vie à deux n'est plus possible, qu'on n'arrive plus à s'entendre, comment faire pour divorcer sans se déchirer? Comment mettre de côté ses rancœurs et parfois même la haine qui a pu s'installer au fil des années et parvenir à établir enfin une relation plus apaisée? Et puis, lorsque le dialogue est rompu, comment trouver un accord autour de la garde des enfants, de la pension alimentaire ou du partage des biens? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Aujourd'hui avec moi en studio, Camille Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et thérapeute de couple. Vous animez également le blog À nous tous, dans lequel vous donnez des conseils. Autour de la table aussi, Yves Toledano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en droit, avocat spécialiste du divorce et aussi fondateur de Radio Divorce, la première web radio consacrée au divorce. Et puis un peu plus tard, nous retrouverons au téléphone Suzanne Ilboudo au Burkina Faso. C'est la présidente de l'association des femmes divorcées et des femmes et des enfants en difficulté. Elle nous racontera justement les difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes qui divorcent dans son pays. Alors, les voisins et les voisines, si vous voulez témoigner et nous raconter la façon dont s'est déroulé votre divorce, les obstacles que vous avez dû surmonter, si vous cherchez des solutions, appelez-nous, le numéro WhatsApp, je le rappelle, 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
On se dit, on est nombreux, mais...
C'est une grande famille.
Oui, la vraie famille.
Voilà, pour nous c'est ça. C'est une grande famille.
Yves Toledano, avant de rentrer plus en détail sur les conseils aux auditeurs, peut-être qu'il faut planter le décor. En France, par exemple, le divorce, ça concerne beaucoup de couples.
Oui, quand même, à peu près 130 000 couples chaque année qui divorcent en France. Ça diffère selon les années, mais enfin, en gros, ça reste assez stable. Ça avait beaucoup augmenté il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est assez régulier dans le nombre des divorces. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. On dit que dans les grandes villes, c'est plus d'un divorce sur deux, pratiquement deux divorces sur trois.
Effectivement.
Et sur le reste de la France, en tout cas, et dans les autres territoires, c'est plutôt un mariage sur deux qui termine en divorce, ce qui est quand même beaucoup, hein. C'est sans compter ceux qui ne sont pas mariés, qui se séparent. Donc aujourd'hui, on peut dire que malheureusement, quand on s'unit, on a plus de chances de séparer que de finir ensemble. C'est la tendance, en tout cas.
Alors, est-ce que le confinement a accentué ce phénomène ?
Alors oui, clairement, en tout cas en ce qui me concerne au cabinet, on a vu une différence après le confinement et ça peut se comprendre. Imaginez un couple qui ne s'entend pas, vous les enfermez pendant des semaines en tête à tête, seul à la maison, il y a peu de chances que ça arrange les choses et il y a des gens qui ne se supportent plus et qui ne se supportaient pas, mais plus ou moins ça allait parce qu'ils allaient travailler le matin, ils se voyaient que le soir, bon, ils se croisaient. Bon, quand on ne peut pas sortir de chez soi, qu'on est confiné, bon, on est H24 ensemble et évidemment quand on ne s'entend pas, bah, ça fait des étincelles.
Oui, ça a joué un rôle d'accélération. Et c'est assez vrai en fait dans le monde entier, comme en Chine, comme je le citais tout à l'heure. Quels sont les principaux motifs de demande de divorce ?
Alors, il y a les motifs assez classiques, l'infidélité. Il y a le fait aussi, parfois, que la belle famille se mêle et assez rapidement, ça clash. Il y a des couples aussi qui, sans motif particulier, ne s'entendent plus ou ne s'aiment plus. Bon. Et puis, il y a, et c'est malheureusement de plus en plus souvent, des violences aussi conjugales, du harcèlement, nouvelles formes d'harcèlement qui n'existaient pas. Et malheureusement, ça s'est accéléré. Donc, des gens qui ne peuvent pas rester au domicile. Donc, toutes sortes de raisons, mais souvent, je pense à la principale, c'est juste qu'on ne s'aime plus.
Qu'on ne s'aime plus, que c'est passé, quoi.
Ouais.
Dans votre cabinet, vous êtes souvent confronté à des divorces qui se passent mal ?
Oui, malheureusement. Alors honnêtement, la majorité quand même des personnes qui viennent divorcer, divorcent à l'amiable. Alors quand on divorce à l'amiable, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas forcément qu'on est amis, ils viennent pas main dans la main ou en se tapant dans le dos pour divorcer. Parfois c'est très tendu, mais on choisit ce mode de divorce parce que c'est plus simple, c'est
pas conflictuel. Oui, qu'est-ce que c'est le divorce à l'amiable ? Expliquez-nous. Bah,
divorce amiable a évolué selon les décennies. Ça a démarré avec notamment la chanson Michel Delpech qu'on connaît, les divorcés en 75 et qui a permis de créer cette forme de divorce, mais qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une nouvelle réforme qui est passée. Lorsqu'on divorce à l'amiable, on ne va plus au tribunal, donc il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'audience, chacun prend un avocat, on fait ce qu'on appelle une convention de divorce, donc une sorte de contrat pour votre divorce, et on se met d'accord sur tout, sur le fait de divorcer, sur toutes les conséquences. Et c'est le notaire qui va enregistrer le divorce. Donc aujourd'hui, divorce amiable, c'est très simple, ça peut être très rapide quand il n'y a pas de bien liquidé. Dans l'absolu, en un mois et demi, on peut divorcer. Donc c'est la forme la plus préconisée. Moi, je sais que je pousse les personnes qui veulent divorcer à ce type de divorce-là. Mais quand on ne peut pas divorcer à l'amiable parce qu'on ne veut pas à l'amiable ou parce qu'on ne peut pas s'entendre sur un des points du divorce, eh bien là, on va devant le juge. Et donc, c'est un divorce devant le juge. Pas forcément contentieux. On peut divorcer devant le juge sans qu'il y ait une dispute. Mais il y a des divorces pour faute, classiquement. Il y a des gens qui ne s'entendent pas et qui vont venir se bagarrer devant le tribunal. Oui.
Qu'est-ce que vous conseillez, vous, justement, à vos clients quand ils entament ces démarches de divorce?
Écoutez, pour personne, c'est facile de divorcer. C'est un échec quand même du couple et c'est un changement de vie qui est clair. Donc si on peut au moins éviter de conflictualiser le divorce et de faire ça en bonne intelligence, c'est évident que c'est la marche à suivre. Je ne vous dis pas que tous les avocats sont dans ce sens-là, mais quand même une majorité d'avocats normaux vont dire à leurs clients, écoutez, on va essayer de faire ça gentiment. Donc oui, le divorce amiable, c'est sûr. Alors on me dit, oui, mais vous comprenez, mon conjoint, il m'a trompé, mon conjoint ceci, mon conjoint cela. Je comprends, mais encore une fois, le divorce amiable ne veut pas dire qu'on est amis, ça veut simplement dire qu'on choisit un divorce où on ne va pas devant le tribunal. Et croyez-moi, quand il y a des enfants, c'est très important d'éviter cette étape-là. Et même pour le conjoint, allez, on va tourner la page en quelques semaines. C'est comme même mieux, franchement, que passer 2 ans à se battre devant un juge.
8 milliards de voisins sur WhatsApp. 33 7 64 45 51 41.
Salia nous écrit depuis Cotonou au Bénin pour nous raconter son histoire. Et pour lui, eh bien, le dialogue, il a été rompu depuis très longtemps. Il nous raconte qu'il a été marié, que son premier mariage a été un échec, qu'il a divorcé au bout de 7 mois seulement puisque sa femme a tenté de l'assassiner à plusieurs reprises. Une expérience donc particulièrement difficile. Il raconte aussi comment il a eu du mal à retourner dans son village puisque c'était une honte de ne pas pouvoir retourner avec une épouse auprès de sa famille. Un témoignage donc particulièrement bouleversant. Camille Rocher, je me tourne vers vous. Des fois, il vaut mieux couper complètement les liens avec son ex-conjoint.
Alors, il y a 2 choses. C'est que quand on a encore des enfants en commun, il va falloir trouver des solutions pour ne pas couper complètement le lien parce que les enfants ont besoin de ce lien-là et de ce passage entre le père et la mère. En revanche, c'est vrai qu'il y a certaines situations où on est obligé de couper ce lien. Alors, parfois parce que, justement, de la violence trop conflictuelle. Donc, même pour les enfants, c'est protecteur de couper complètement le lien. Et quand il n'y a pas d'enfant, quoi qu'il arrive, si après il y a une seconde union, ça va être très compliqué de garder ce lien avec l'ex. Donc, il vaut mieux tout couper tout de suite pour repartir sur des bases saines, digérer son divorce, digérer aussi la relation de couple qu'on a eue pour pouvoir arriver de façon la plus sereine dans une nouvelle union s'il y en a une après.
Est-ce qu'il vous arrive, vous, de recevoir dans votre cabinet des patients justement dont la vie est menacée ?
Alors, complètement. On parlait des violences, on peut aussi parler des addictions, alors qui vont emmener à des violences, mais pas simplement. Alors, la vie dans ces cas-là, avec les addictions, n'est pas forcément menacée, mais on a un exemple très toxique à la maison de ce que l'on peut devenir. Vous imaginez, quand il y a de l'addiction à l'alcool, à la drogue, des addictions de jeux d'argent, tout ça. Alors, quand il y a des enfants, c'est terrible, et même moi, en tant que conjoint, vivre avec ça, c'est extrêmement toxique. On ne peut pas être dans une relation sereine là-dedans. Mais bien sûr que oui, on a des cas de violence. Et là, évidemment, sans forcément tout de suite parler de divorce, mais il m'arrive, moi, en tant que thérapeute, d'imposer la séparation pour la protection vitale de l'un et de l'autre. Et après, si chacun veut travailler de son côté, qu'on va mieux, qu'on veut se remettre ensemble, pourquoi pas? Mais en tout cas, la séparation, parfois, est inévitable. Il faut aller vers la séparation.
Comment est-ce qu'on fait pour tourner la page quand on vit des événements si traumatisants?
Alors, il y a plusieurs choses. Soit j'ai des réminiscences qui reviennent régulièrement, type tentative d'assassinat, tout ça. Évidemment que ça va être compliqué de m'en sortir seule. Donc là, on a des techniques comme le MDR, par exemple, qui travaille sur le traumatisme et qui permet justement de...
Le MDR, excusez-moi, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs
ce
que c'est ?
Le MDR, c'est une technique qui travaille sur les fausses croyances que j'ai enregistrées par rapport à un événement. Donc en fait, c'est une technique qui marche sur les yeux et qui relie le cerveau émotionnel au cerveau rationnel. C'est pour que le cerveau enregistre que l'événement est fini. On a une petite partie dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe qui va dater mon émotion reliée à un événement. Et donc, si ma femme a tenté de m'assassiner le 2 janvier 2023, quand je vais arriver en 2025, je sais que je ne suis plus en danger. En fait, je sais que c'est un souvenir, un mauvais souvenir, mais ce n'est plus réactualisé. Là où quand on est traumatisé, ça revient régulièrement. Je me sens régulièrement en danger parce que le cerveau croit qu'il est encore en danger. Et ça, c'est quand l'émotion a été tellement forte qu'elle n'a pas su être reliée à l'événement.
Elle n'a pas
et donc
été traitée par le cerveau.
Elle n'est pas traitée. Donc le MDR permet de traiter de façon artificielle quelque chose qui aurait dû se faire naturellement, qui ne s'est pas fait. Et donc on fait ça en cabinet et c'est une technique qui est là depuis un certain temps maintenant en France et qui vraiment, parfois c'est époustouflant, mais ça permet d'arrêter les cauchemars, les réminiscences, les flashs qui viennent et évidemment calmer les angoisses et donc être plus serein aussi pour la vie à venir.
Et pour les personnes qui n'ont pas accès justement à ces techniques, qu'est-ce que vous leur recommanderiez ?
Alors, soit on est dans un environnement, il faut se remettre en sécurité. Donc ça, c'est vraiment la base, puisque ma sécurité a été touchée, c'est ce qui est le plus important. Et même pour la vie de couple, il faut que la sécurité, c'est le premier pilier, c'est la sécurité. D'où le nombre d'infidélités qui génèrent des divorces, parce que c'est mon socle de sécurité qui a été touché. Donc il faut se mettre dans un cadre de sécurité. Alors ça peut quand même être accompagné par des professionnels, tout ce qui va être relaxation, tout ça. Bon, les psychologues, c'est quand même ce sur quoi on va travailler le plus sur le point précis. Mais sinon, ça peut être aussi se remettre pendant un certain temps dans un environnement avec accompagné de bons amis ou peut-être parfois revenir dans sa famille si ça se passe bien pour une forme de petite régression, mais qui permet en fait de pouvoir repartir sereinement, retrouver mon socle de sécurité pour repartir après. Et sinon, ça va être tout simplement, et ça, j'insiste, parce que trop souvent, on va vite, on recherche la sécurité dans un nouveau conjoint. En fait, on arrive dans le nouveau couple avec nos expériences, nos mauvaises expériences, et on attend du nouveau conjoint qui vienne nous guérir.
Il faut prendre le temps.
Et donc, un temps de célibat est hyper important. Et ça, je sais que malheureusement, je ne suis jamais écoutée, mais il le faut parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se reconstruit.
Je vous propose maintenant d'écouter Jemima qui nous a laissé un message depuis Kinshasa en RDC.
Bonjour 8 milliards de voisines et voisins depuis Kinshasa, la belle République démocratique du Congo. Je suis du Kasaï. Nous sommes patrilinéaires, mais mon ex-mari était du Bas-Congo matrilinéaire. On s'est séparés à cause des différences de coutumes. Ma belle famille a fini par imposer la séparation. C'était très, très, très dur à vivre pour moi. J'ai beaucoup souffert pendant plus ou moins 8 ans, surtout qu'il était mon premier grand amour. J'ai eu même l'anorexie. J'avais vraiment perdu confiance en moi. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à tourner la page, mais difficilement, car les séquelles sont toujours là. On a peur que ça revienne de nouveau et puis on se sent instable dans nos relations. Merci beaucoup et surtout très belle journée à tout le monde.
On entend la souffrance de cette femme qui a très mal vécu son divorce. Elle s'en est même rendue malade. Camille Rocher, qu'est-ce que vous pensez de son témoignage ?
Alors, ce qui est très important, c'est que dans un divorce, on parlait tout à l'heure d'échec du couple, et en réalité c'est aussi un échec personnel et donc sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi. Je suis touchée là-dessus, soit parce que si j'ai été abandonnée, j'ai l'impression que je suis pas digne d'être aimée, qu'on m'aimera jamais, que je retrouverai jamais personne, tout ça. Si moi-même j'ai dû rompre, je vais me dire mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas choisi la bonne personne ? Qu'est-ce qui fait que je me suis trompée ? Quels ont été peut-être les warnings que je n'ai pas vus, qui auraient dû s'allumer en moi, qui ne se sont pas allumés au bon moment. Donc il y a vraiment cette question d'estime de soi dont parlait cette femme. Et ça, c'est important. Alors là, elle parlait d'anorexie, de tout ça. Donc, on est quand même dans quelque chose qui a été d'une profonde violence, peut-être qui a fait même écho à des angoisses qu'elle avait avant, parce que dans la séparation est ravivée quand même une angoisse d'abandon, souvent. Donc, il est possible qu'elle ait pu vivre ça aussi auparavant. Et donc, c'est venu raviver, parce que pour qu'il y ait de l'anorexie suite à une séparation, c'est que ça a quand même été d'une violence assez importante. Voilà. En revanche, après, c'est vraiment cette question d'estime de soi à reconstruire suite à cette séparation.
Puis ce qui est compliqué aussi, c'est que le choix a été imposé par la famille.
Alors ça, c'est d'une violence très importante. Pourquoi ? Parce que là, on touche du doigt l'autonomisation. Ça veut dire que je me suis mariée avec un conjoint qui n'avait certainement pas bien fait son autonomisation par rapport à sa propre famille. Et aujourd'hui, les gros conflits avec les belles familles, c'est pas toujours parce que la belle-mère est insupportable, c'est surtout parce que derrière, je trouve que mon conjoint n'est pas suffisamment adulte à mes yeux et reste trop l'enfant de ses propres parents. Ou moi-même, je suis trop l'enfant de mes propres parents. Donc, bien sûr que c'est violent parce qu'en fait, on se sent très infantilisé et on ne se sent absolument pas libre dans une construction autonome de couple.
Nabine nous écrit de Lomé au Togo. Pour lui, les divorces viennent souvent d'un manque de communication, de désaccord ou encore de fautes commises par l'un des deux partenaires qui entraînent colère, rancœur et indifférence. C'est difficile de rester en bon terme, écrit-il. Pardonner, pourtant, c'est une étape indispensable pour pouvoir passer à autre chose, Camille Rocher.
Ah bah, le pardon, et ça, on doit le voir aussi chez les avocats dans le divorce, pour même réussir un divorce à l'amiable, il faut absolument qu'il y ait quand même un pardon qui se fasse à un moment donné. Et pour que nous, on puisse se reconstruire après, si j'arrive de nouveau avec mes rancunes, mes rancœurs, tout ça, je vais en fait empoisonner ma nouvelle relation parce que je vais tout faire pour ne pas retrouver ce que j'ai vécu avant. Donc, je ne serai pas vraiment libre. Donc, bien sûr que oui, le pardon est important. Maintenant, il y a différents divorces. Il y a des divorces sur des petites choses du quotidien qu'on n'a pas su gérer. Et en effet, ça va être des problèmes de communication, peut-être pas si compliqué que ça. Et c'est à ce moment-là où si on est allé voir un thérapeute de couple avant, on aurait pu s'en sortir. Et il y en a d'autres où il y a de graves blessures. Et là, ça peut prendre du temps et le pardon peut prendre beaucoup de temps.
Patience donc.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Les voisins et les voisines, aujourd'hui, on parle du divorce et des sujets qui fâchent. Et souvent, au cœur des disputes, arrivent les questions d'argent. On écoute tout de suite Obereau, qui est à Bukavu, en RDC. Bonjour Obereau, c'est bien un problème d'argent qui était à l'origine de votre divorce?
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde. C'est Obereau, depuis Bukavu. De ma part, en tout cas, cette émission, elle est très importante à mes côtés parce que j'ai connu le même problème. Je m'étais marié à une femme d'une manière locale comme ça, donc. Et à cela, il nous est arrivé un moment, en tout cas, de vivre ensemble, mais elle a accouché trois jumelles. Après 3 ans d'existence d'ensemble, et voilà, d'un moment à un autre, vraiment, parce que j'étais sans travail, et la femme n'a pas pu supporter les moments difficiles d'une femme enceinte, d'une femme qui a besoin de manger à temps réel, d'une femme qui a besoin de trouver des thés et tout ce qui est nécessaire à une femme qui est mise au monde. Voilà, il est arrivé un moment où, en tout cas, on a créé beaucoup de conflits, beaucoup de discussions. Et elle a fini faire la maison. Elle est partie avec les 3 triplés jusqu'à aujourd'hui. Alors que après le moment, elle est partie, voilà, le problème a commencé par marié à la justice, on est arrivé à comparaître à peine plus de 5 fois. On a été également totalement contraint de... J'ai été totalement contraint d'abord d'être doté en toute urgence, après en tout cas des processus judiciaires, du fait qu'il n'y avait pas aussi de moyens, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas même de moyens aux côtés des parents. Voilà, la femme est partie comme ça et jusqu'à présent, c'est elle qui garde les 3 jumelles, mais chaque fois ça se reproduit, en tout cas les conflits se reproduisent d'un moment à un autre, parce qu'il y a un moment où elle s'est arrivée, mais demande de l'argent, elle demande de servir à manger, de servir à donner aux enfants. Donc, moi-même, je suis sans travail, je n'ai pas où aller, je n'ai pas où tirer quelque chose, donc c'est juste une divorce qui me laisse souffrir jusqu'à présent, malgré les 2 ans de séparation, mais je conduis toujours à subir le même cas de divorce.
Oui, on comprend bien, Obero, donc il y a une question d'argent au cœur de votre séparation, une séparation douloureuse. Yves Toledano, l'argent, c'est souvent le lieu de crispation de beaucoup de ménages dans les affaires de divorce.
Oui, souvent. Alors, principal, c'est les enfants, hein, voilà, pour être clair, mais juste après les enfants, c'est l'argent qui est le cœur du problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui divorcent qui n'ont pas d'enfants et pourtant, ils sont en guerre. Donc, la raison, c'est l'argent, c'est clair. Parce que dans l'argent, il y a plusieurs notions au niveau du mariage. Vous avez déjà, on entendait notre auditeur là, le fait qu'un conjoint doit le devoir de secours à l'autre conjoint. Donc, si un des deux conjoints travaille et l'autre ne travaille pas, celui qui travaille ne peut pas dire, écoute, tu te débrouilles, tant pis pour toi, on doit subvenir à tous ses besoins. Il y a, au moment de la séparation, selon le régime matrimonial que vous avez, une liquidation à faire. Donc parfois on ne s'entend pas parce qu'on n'est pas d'accord sur la liquidation. Il y a ce qu'on appelle également la prestation compensatoire. En gros, pour simplifier, lorsqu'on divorce, le conjoint le plus fortuné doit donner une somme d'argent à l'autre pour lui permettre, après le divorce, de ne pas se retrouver tout d'un coup sans ressources. Donc il y a plein de questions d'argent. Il y a la pension alimentaire, bien sûr, pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est une notion, l'argent, qui impacte beaucoup la séparation et qui crée plein de tensions qu'il faut régler et que le juge doit régler.
Alors là, vous parliez de la pension compensatoire et de la liquidation des biens. C'est pas toujours vrai. Et puis les pensions alimentaires sont pas toujours distribuées ou en cours dans tous les pays. Mais qu'est-ce qui se joue là autour de l'argent symboliquement dans le couple ?
C'est parfois un rapport de force. Lorsque un conjoint travaille et apporte l'argent à la maison, il peut à tort avoir le sentiment que c'est lui qui tient le couple. Or, évidemment, c'est l'argent a son importance, mais un couple n'est pas fait que sur des notions financières et sur ce rapport-là. Évidemment que tenir un couple, c'est l'intelligence de savoir être avec son conjoint dans des conditions qui permettent à chacun d'exister au-delà de la partie argent. Il y a des personnes, des conjoints qui ne travaillent pas et qui eux seuls tiennent le couple par justement les relations qu'elle a instaurées, le fait de laisser la place à l'autre, de savoir aussi s'imposer quand il le faut. Donc le couple, c'est vraiment un échange et l'argent fait partie de cet échange, mais c'est pas le seul élément et c'est pas l'élément le plus important, loin de là. Or, une personne qui gagne bien sa vie, moi j'entends souvent au cabinet des gens qui viennent, écoutez, c'est moi qui finance, c'est moi qui paye, comme si l'autre devait se coucher parce que l'argent est de l'autre côté. Or, c'est pas du tout l'élément qui fait. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui passent complètement à côté de leur couple, de leur mariage, parce qu'ils sont centrés sur ça et ils oublient tout le reste. Et dans un couple, notre psy pourra le dire mieux que moi, il y a beaucoup, beaucoup d'autres efforts à faire et beaucoup d'autres choses à apporter que simplement la partie matérielle.
Le divorce, on continue à en parler juste après ce titre, Kill Bill, de l'artiste américaine SZA. Elle décide ici de régler ses comptes avec son ex.
At the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me there's other men. I don't want that, I just want you. If I can't have you, no one will. I did it all on no drugs. I did all of this
Les voisins et les voisines, vous êtes toujours sur RFI pour parler aujourd'hui du divorce. Un événement qui peut souvent être vécu de manière très difficile. Est-il possible de divorcer sans se déchirer? Si vous aussi vous souhaitez témoigner, contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Direction maintenant le Burkina Faso où nous retrouvons Suzanne Ilboudo. Bonjour Suzanne.
Et bonjour.
Alors, vous avez créé cette association des femmes divorcées et des femmes et des enfants en difficulté. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de femmes vous accompagnez?
Par an, nous pouvons avoir au moins une centaine. Ça dépend des années.
À quel genre de problématiques elles sont confrontées, ces femmes qui viennent vers vous?
D'abord, quand les femmes divorcées viennent à nous, on les sent traumatisées, marginalisées, démunies et désœuvrées. Voilà. Quand elles viennent, elles sont dans cette situation.
Traumatisées pour quelles raisons?
Parce que quand on se marie, on ne pense pas qu'un jour ou l'autre, on peut être amené à être séparé de son conjoint et de ses enfants. C'est ça qui fait qu'elles sont traumatisées. Et de prime abord, une femme qui divorce, on pense qu'elle est la seule fautive du couple. Donc, elles sont marginalisées par la société, rejetées de leur mari et de leur famille. Donc, il y a beaucoup qui ne supportent pas cet état de fait.
Vous dites rejetés par leur famille et puis aussi de la société, c'est-à-dire que concrètement, comment font-elles pour vivre, ces femmes?
Oui, généralement, celles qui viennent à nous sont des femmes qui ne travaillent pas, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes analphabètes à qui les maris interdisent de faire de petits commerces. Et quand elles se retrouvent dans la situation de divorcer, elles ne savent que faire. Et la plupart du temps, mamie, ce sont des femmes qui partent avec des petits-enfants, qui sont dans la rue. Et souvent, avec nos petits moyens, on peut essayer de louer des locaux pour loger certaines pour quelque temps. Le temps qu'elles puissent se rétablir, si je peux le dire ainsi, et pour se réinsérer dans la société.
Donc, première des choses, leur trouver un logement. Concrètement, quels conseils vous leur donnez, vous, à ces femmes, pour les accompagner, pour les aider à dépasser cette épreuve?
Bon, souvent, nous faisons des prises en charge psychologiques. On leur donne des conseils juridiques. On leur apporte des conseils juridiques et on les encourage à faire des petits commerces, de trouver des petits travaux, même si c'est pour aller dans les cours, pour laver des habits et puis avoir quelque chose.
Pour qu'elles soient autonomes financièrement.
Oui, il faut qu'elles s'autonomisent. Elles arrivent à avoir quelque chose pour se prendre en charge et puis pour aider leurs enfants.
On l'a bien compris, Suzanne, donc la situation de ces femmes divorcées au Burkina particulièrement difficile. Merci Suzanne pour votre témoignage et puis aussi pour votre formidable initiative pour venir en aide à ces femmes.
8 milliards de voisins.
Bonjour, bonsoir. La RFI, la radio RFI.
Je suis Sita, je vous écoute à Abidjan.
Moi, c'est Monsieur Steve. Merci et à tout à l'heure.
8 milliards de voisins. Une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
RFI, la radio du monde, on est ensemble.
Les voisins, les voisines, il y a un autre sujet particulièrement difficile dans les histoires de divorce. C'est bien évidemment la question des enfants. On en parle tout de suite avec Altiane qui nous appelle depuis Brazzaville au Congo. Bonjour Altiane.
Bonjour.
Le divorce est une histoire que vous avez expérimentée dès votre plus jeune âge, n'est-ce pas?
Oui, c'est bien cela.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire?
D'accord. Je vous parle de mon expérience en tant qu'enfant de parents divorcés. Lorsque vous vivez dans cette situation, vous avez vécu ce genre de situation, comme mon cas, mon exemple, j'ai été principalement éduquée par ma mère qui m'a inculqué des valeurs de réussite dès mon plus jeune âge, déjà que j'étais dans cette situation d'enfant divorcé.
Vous aviez 7 ans quand vos parents se sont séparés, c'est bien ça?
Oui, j'étais très jeune, c'est bien cela, j'avais 7 ans.
Et ça a un petit peu bouleversé votre mode de vie, notamment pour la question du budget?
Oui, la question du budget, de la garde des enfants, ma garde et celle de ma sœur plus précisément, pour être claire. Et comme j'ai grandi principalement avec ma mère, comme je venais de le dire, il fallait de temps en temps partir en week-end chez papa et passer des vacances. Et ce qui était un peu difficile hein, pour notre maman de l'admettre.
Vous nous racontiez quand on préparait l'émission que ce qui avait été extrêmement difficile pour vous, c'était de voir cette famille qui se brise par rapport aux autres familles qui restent ensemble.
Oui, c'est ça. Comme quand j'allais à l'école, parce qu'un enfant de 7 ans est encore à l'école primaire, plus précisément au cours élémentaire. Et lorsque je voyais d'autres enfants de mon âge venir avec leurs deux parents à l'école, et ça me brisait. Voilà.
Altiane, ça reste une épreuve traumatisante pour vous, ce divorce, le divorce de vos parents?
Bien sûr que oui, je peux le dire. Hein. Mais après, j'ai appris à vivre avec. Comme je l'ai dit aussi au tout début de mon intervention, quand vous êtes un enfant issu de parents divorcés, vous avez le droit de faire de grands efforts pour ne pas chuter. Vous devez réussir dans la vie sociale parce que si vous ne réussissez pas, vous voyez un peu le regard de l'autre parent. Déjà, je suis dans une famille monoparentale et si je ne réussis pas, imaginez un peu le regard de l'autre parent envers le parent qui vit avec moi et qui assure mon éducation. Il se dira que l'autre parent a failli. Voilà.
Merci Altiane. Camille Rocher, comment faire pour essayer de préserver ses enfants quand on doit se séparer?
Alors là, ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on parle concrètement du conflit de loyauté. C'est-à-dire que je commence à avoir un rôle dans le couple de mes parents, quand bien même ils sont séparés. L'obligation à devoir réussir pour valider le parent qui s'occupe de moi, sinon il va être invalidé par l'autre, c'est tout à fait ce qu'on appelle le conflit de loyauté, c'est-à-dire que j'ai un rôle vis-à-vis de l'un pour ne pas trahir le second et inversement. Donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui parlent de ce qu'ils ont fait chez la mère quand ils vont chez le père, ils voient le père triste, donc ils se disent, en disant que j'aime maman, je rends papa triste, et inversement. Tout ça, voilà, ça c'est vraiment la notion du conflit de loyauté. Et ça, c'est une notion, il faut absolument préserver les enfants de ça et les libérer de cette pression qu'ils se mettent parce qu'ils vont se la mettre eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir que là, on parle d'un divorce quand elle avait 7 ans. À 7 ans, l'enfant se sent responsable du divorce de ses parents. Il a l'impression que c'est lui qui est la cause du divorce de ses parents. C'est une pensée irrationnelle, mais c'est quand même ce que l'enfant va penser. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rassurer l'enfant qu'il n'y est pour rien, qu'il ne pourra rien faire pour réparer les choses puisque c'est pas son rôle. Donc, on lui enlève cette mission des épaules et on va accepter qu'il nous parle de l'autre parent à la maison librement, quand bien même on a une réaction émotionnelle, c'est pas grave, on lui dit tu sais c'est pas de ta faute, c'est notre vie de famille qui fait ça, mais bien sûr que t'as le droit de me parler de ton père, me parler de ta mère et je ne t'en veux pas.
Yves Toledano, quel conseil vous donnez à vos clients quand justement vous abordez cette étape difficile dans le divorce de la garde des enfants?
C'est vraiment le point, pour moi, vraiment le plus important. Il y a souvent dans les dossiers ce que on voit, ce que l'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. En fait, pour simplifier, vous avez deux parents qui se font la guerre. Et pour être sûr de faire mouche et de vraiment faire mal à l'autre, on va utiliser les enfants. Donc, on va leur laver le cerveau et leur dire, tu sais, maman ou papa, il est pas gentil, il a quitté maman, il a une autre femme, il est méchant, etc. Il t'aime pas. Et donc, on utilise les enfants. On les instrumentalise. Et ça, c'est malheureusement très fréquent. Au lieu de les laisser tranquilles, au contraire, non seulement on les implique, mais en plus, on s'en sert contre l'autre parent. Et ça, c'est évidemment, on peut le comprendre, extrêmement destructeur. Et c'est, je peux vous dire, très, très très mal vu par les juges. Lorsqu'il y a des enquêtes sociales qui sont demandées, ça se voit tout de suite parce que les enfants tiennent auprès de l'enquêteur social des paroles qu'ils peuvent pas trouver eux-mêmes et qu'on forcément leur a mis dans la tête, et donc ça se repère immédiatement. J'ai des parents qui me disent, écoutez, moi, mon fils, il veut être avec moi, on va le faire entendre par le juge, il va bien lui dire au juge, etc. Donc évidemment, on n'entend pas comme ça un enfant devant un juge. Moi, c'est pour moi le dernier recours. D'abord, un enfant, il faut qu'il ait ce qu'on appelle l'âge de raison, donc 11, 12, 13 ans pour être entendu, auditionné. Donc on ne les mêle pas à ça, on ne les envoie pas devant un tribunal pour parler, et donc ce n'est pas aux enfants de choisir. Il faut que les parents comprennent qu'ils ont un lien entre eux, même s'ils divorcent, qui sera pour la vie, qui sont leurs enfants, et ils sont obligés de s'entendre en bonne intelligence pour les enfants, même si ça ne leur fait pas plaisir, qu'ils se disputent pour l'argent, on en parlait, pour autre chose, pour ce qu'ils veulent. Mais pour les enfants, c'est une obligation de s'entendre, et moi, je n'ai pas l'habitude de faire la morale à mes clients, mais sur ce point-là, je peux vous dire que je leur dis, écoutez, si c'est comme ça, moi, je ne prendrai pas votre dossier, parce que prendre les enfants dans ce conflit-là, moi, ça ne m'intéresse pas.
Oui, et puis ne pas perdre de vue qu'il faut choisir ce qui est le mieux pour eux.
C'est l'intérêt de l'enfant qui est vu en premier par le juge et qui doit être le cas pour les parents aussi, évidemment.
Direction Abidjan maintenant, en Côte d'Ivoire, où nous attend Brice. Lui aussi a une histoire difficile autour de la séparation de ses parents. Bonjour Brice.
Bonjour Lucie.
On vous écoute Brice, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire?
Oh, vraiment, faut dire que la séparation de mes parents, mon papa et ma maman, vraiment, ça a été très dur pour moi et ma petite soeur. Moi, j'avais à peine 7 ans, ma petite soeur avait à peine 5 ans quand nos parents se sont séparés. Et mon papa, il nous empêchait de voir notre maman. Il nous a privé de l'amour maternel tout le temps. Et c'était un regain de violence. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, il s'énervait. Quand on lui posait la question concernant notre maman, il s'énervait. Voilà. Même quand on lui demandait les vacances pour aller chez la vieille, c'était des punitions. Voilà. Donc nous avons vécu dans un enfer pas possible avec notre papa, après la séparation de notre maman. Et il nous disait que nous étions les responsables de son échec social. Il n'arrêtait pas de nous répéter ça. Et si nous ne l'avions pas eu, il serait peut-être devenu un cadre dans la société. C'est parce qu'il nous a eu et il n'est pas devenu un cadre dans la société.
Oui, on entend, hein, Brice, un témoignage encore très fort avec vous et donc votre petite sœur. Vous avez été interdit de voir votre mère pendant 8 ans. C'est assez douloureux, on l'imagine. Camille Rocher, comment est-ce que vous réagissez justement au témoignage de Brice?
Alors, bien sûr que c'est une violence très importante pour les enfants parce que déjà, on est face à cette aliénation parentale où tu ne peux pas faire confiance à ta mère. Enfin, il y a toujours un flou, en fait. Parce que là, Brice nous parle maintenant qu'il est adulte, mais à 7 ans, qu'est-ce qu'il a pu se dire de cette mère qu'il n'avait pas le droit de voir? Donc là, on est quand même dans quelque chose d'une grande violence, avec ce qui génère en plus chez les enfants des angoisses d'abandon, parce qu'évidemment, être coupé à 7 ans d'une mère pendant 8 ans, on a quand même parfois l'idée même de se dire, mais qu'est-ce que fait cette mère? Pourquoi elle ne vient pas nous sauver, en fait, de cette situation? Donc ça met un flou qui est très compliqué. Est-ce que j'ai raison de vouloir m'accrocher à elle? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il faut que je me protège? Est-ce que c'est mon père qui a tort? Enfin, c'est très compliqué. Donc là-dessus, moi, je vois les couples et les adultes dans mon cabinet. Et quand j'ai des adultes qui me relatent leurs histoires de cet ordre, comme l'histoire de Brice, on va vraiment essayer de comprendre. Et c'est important d'arriver à comprendre les mécanismes qui ont fait que son père a voulu agir comme ça, sa mère a été coupée et n'est pas forcément revenue à ce moment-là. Voilà, de comprendre tout ça pour ne plus être dans cette aliénation, mais voir la réalité de nos parents avec un regard qui est vrai et non pas le regard qu'on a voulu nous mettre sur nos parents. Mais pour des enfants, vivre ça, c'est une grande violence.
De toute façon, dans tous les cas, le divorce pour les enfants, il est vécu par les enfants comme la fin d'un monde.
C'est un traumatisme. En fait, aujourd'hui, on banalise beaucoup ça. J'ai beaucoup même de parents qui vont dire, de toute façon, les enfants, ils vont s'habituer. Voir chez les petits qui n'ont pas les mots pour exprimer l'ado, il va pouvoir se révolter. Le petit, vous lui dites ça, vous lui dites, on va se séparer. 5 minutes après, il va jouer. Donc, ils vont dire, bon, on a l'impression que ça lui est coulé dessus. On lui a expliqué qu'il aurait deux Noël. Noël, qu'il aurait double cadeau, tout ça. En fait, ça, c'est une méconnaissance de la psychologie de l'enfant. Et bien sûr que là, on est venu briser son socle affectif. Donc, il va falloir le reconstruire. C'est pour ça que le lien entre les parents, et merci Yves de nous le rappeler, le lien entre les parents est indispensable pour les enfants. Et on doit réfléchir au bien de l'enfant en tenant compte du traumatisme qu'on leur fait vivre. Et donc, c'est évidemment le premier objet que l'on va travailler. C'est vraiment comment faire pour continuer à sécuriser l'enfant quand bien même ce socle-là a été brisé.
Khadija de Touba au Sénégal nous écrit également. Elle raconte « Quand mes parents ont divorcé, je ne savais plus où me mettre, je ne savais plus où aller en vacances, à qui je devais parler entre les deux. C'est dur d'avoir à choisir, là encore Camille Rocher, la question du choix et du conflit de loyauté revient au cœur des préoccupations de ces enfants. »
Ah ben évidemment, en fait quand je sens que si j'exprime l'envie d'aller voir un parent, donc si j'exprime à ma mère que j'aime mon père et que j'ai envie de le voir, qu'il me manque et que je vois ma mère qui se met en colère ou qui s'effondre, je me dis que je n'ai plus le droit en fait d'avoir ce lien-là. Ou alors je n'ai pas le droit d'en parler. Donc si j'aime l'un, je rends triste l'autre et si je dis que j'aime pas l'un, en fait je trahis le premier. Donc c'est d'une complexité inextricable en fait pour un enfant et c'est en ça où vraiment en tant que parent on doit décharger nos enfants et lui dire, mais bien sûr que ton père te manque, bien sûr que ça doit être difficile pour toi, c'est pas naturel, c'est pas ce que je te souhaite, on a peut-être pas eu le choix, mais évidemment tu peux l'appeler, enfin voilà, on va essayer de tout faire pour que ça, l'enfant n'ait pas à vivre ça.
Heureusement, toutes les histoires ne se terminent pas mal. Je vous propose de retrouver maintenant Lemrabot à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Lemrabot.
Bonjour Lucie.
Vous avez une certaine expérience du divorce. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Moi, vraiment, j'ai une expérience qui est un peu spéciale parce que je garde les meilleurs contacts et les bonnes choses avec toutes mes ex et avec Léa Fabio.
Alors, vous avez divorcé combien de fois exactement ?
4 fois.
4 fois. Donc, vous avez quand même une certaine expérience du divorce. Et vous dites que vous avez réussi à garder des relations bonnes avec toutes vos ex-femmes. C'est quoi votre secret ?
Ouais, le secret est là. Et qu'il faut toujours se rappeler du bon et oublier le mauvais. Et essayer aussi d'agir au moment que les autres ont des problèmes, que les autres ont besoin de toi. Il faut agir rapidement. Et facilement.
Et vous avez fait des enfants avec toutes ces femmes ?
Non, j'ai une fillette que j'adore beaucoup, qui vit avec moi, que j'ai demandé à sa maman qu'elle allait venir réfugier chez moi pendant le week-end et pendant les vacances, elle rentre chez sa maman.
Et puis j'imagine qu'au cœur de vos relations, il y a aussi une notion de respect qui est fondamentale ?
Bien sûr, c'est le plus important. Le plus important est de valoriser la personne après le divorce et ne pas essayer de minimiser cette personne. Il faut toujours essayer de lui donner valeur et de rappeler, de te rappeler soi-même des bons moments et de tout ce que vous avez fait du bien et ce que l'autre partenaire a fait du bien et oublier le mauvais.
Oubliez le mauvais. Yves Toledano, Camille Rocher, très brièvement, est-ce que vous pourriez donner 3 conseils à nos auditeurs, s'il vous plaît, pour bien réussir son divorce ? Camille Rocher.
Premièrement, moi j'ai quand même des couples qui viennent dans mon cabinet pour que je les accompagne dans cette démarche de divorce. Alors on pourrait se dire c'est original d'aller voir un thérapeute de couple pour le divorce, mais voilà, ça c'est vraiment le premier conseil, pourquoi pas se faire aider par un professionnel. Le deuxième, de trouver un terrain d'entente pour vos enfants, parce que si vous n'êtes pas à l'aise vis-à-vis de vos enfants, vous n'arriverez pas à vous reconstruire seul, c'est nos tripes, nos enfants. Donc trouver ce terrain-là. Et troisièmement, partir en s'étant donné les pardons qu'il fallait qu'on se donne, quand bien même ce n'est pas dans une optique de reconstruction, mais d'assainissement.
Yves Toledano ?
Déjà dire à notre auditeur que nous, au cabinet, on a une carte d'abonnement. Donc, au bout du 4e divorce, le 5e est offert, donc à bon entendeur. Non, plus sérieusement, premier conseil, et c'est un avocat qui le dit, ne pas se précipiter chez l'avocat quand on a des disputes. Ouais. Essayer de trouver une solution. Il y a les thérapeutes de couple, comme Camille, sont très bien. Mais parce que souvent, quand on met le pied chez l'avocat, ça enclenche et c'est un peu compliqué. Deuxièmement, on est tous d'accord faire en sorte qu'avec les enfants, ça se passe bien et les mettre surtout à l'écart. Et troisièmement, lorsqu'on doit divorcer, moi, mon conseil, c'est de le faire à l'amiable. évidemment. Aujourd'hui, la majorité des gens font ça et c'est vraiment vers là qu'il faut se diriger. Éviter le divorce conflictuel. Juste un chiffre, un divorce sur 10 l'année dernière était pour faute uniquement. Divorce pour faute, à peine un divorce sur 10. Donc aujourd'hui, c'est plus la mode. Laissez tomber les fautes. Faites ça à l'amiable.
Merci Yves Toledano, Camille Rocher pour vos conseils. On se quitte en musique avec Kondo et ce titre Le Prix, c'est un extrait de son nouvel album Apparaître, plus haut que la Tour Eiffel. Le Prix, donc, un titre dans lequel Kondo rend hommage à la musique de l'orchestre Polyrythmo de Cotonou et qui fait danser de la tête aux pieds.
Nombreux sont ceux qui profitent de ma détresse, peu ceux qui veulent que je vienne. L'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête. On veut son amour, pas la guerre. Réussir ou bien mourir, c'est la promesse. Le clairon de la première heure laisse-nous croire que nous appellent toutes les richesses. Du monde, on oubliera la peur. Du monde, on oubliera les dangers. Nos grands-pères dans la grande guerre, comme nous, ont déjà été piégés par l'homme, le désert et la mer. Je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici. En moi, j'ai une plaie à vivre. Mes souvenirs sont des lames d'eau frappant le récif. Agressif. Je vis dans ce monde comme en apnée, à deux doigts de l'apoplexie. Ma tête est sur le point d'exploser, pas loin je suis de l'asphyxie. Tu sais, si nous étions mieux organisés, moins dépendants, moins divisés, mieux équipés, mieux nourris, plus rassurés dans notre estime, on rebâtirait toutes les pyramides. Ma terre porte tellement d'histoire, l'Afrique devrait être pour moi l'Amérique. Et pourtant je n'ose pas m'y voir, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or. Je me dois d'honorer mes morts, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or. Et d'améliorer mon sort. Hey, quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. Quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro. En CFA. Nigérian, malien, béninois, ghanéen, camerounais, ivoirien, burkinabé, j'appelle à l'unité comme si Sankara continuait de prêcher, comme si Lumumba continuait de vivre. La vérité est-elle dans les livres? Les hommes s'unissent-ils que dans le pire? Le rêve de la France est un business. Le trafic d'humains est un business. Les passeurs le savent, c'est leur business. On voyage en carpa en business. Pourquoi les hommes qui œuvrent pour le bien ont tant de mal à se trouver? Pourquoi les hommes qui œuvrent pour le bien ont du mal à construire ensemble? 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 2 millions CFA. 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Où vais-je emprunter tout ça? Les hommes qui œuvrent simplement pour eux-mêmes n'attendent de moi que de l'argent. Les hommes qui œuvrent simplement pour eux-mêmes affirment m'aider pourtant. Ils vivent et priment à mes dépens. Le fric, le passeport et l'essence. Business international de la honte, ils se gavent tous à mes dépens. Ils m'emmèneront de Cotonou à Gao. Si le village cotise pour le premier dépôt. Si j'ai assez, le visa sera sans défaut. J'irai et ferai tout ce qu'il faut. Hey, quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. Quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro. CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro.
Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Damien Roucou, Valentine Lemaire et Romain Dubrac. 8 milliards de voisins et de voisines. Une émission que vous pouvez bien sûr réécouter en podcast. À très bientôt.
Huit milliards de voisins, c'est fini.
Appel sur l'actualité.